Nzamba.
Nzambira samirana.
Nous sommes le jeudi 29 avril 2021. Merci d'écouter la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est le moment du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. Un militaire démobilisé ex-FAB est gardé au commissariat de police à Rusaka, dans la province de Mwaro. Il a été arrêté au lendemain de son acquittement par le tribunal de grande instance de Mwaro. Commémoration ce 29 avril 2021 du 49e anniversaire des massacres de 1972. L'ancien vice-président de la République du Burundi, Frédéric Bamvuginyumvira, regrette que la justice burundaise et la commission Vérité et Conciliation ne parviennent toujours pas à réconcilier le peuple burundais. Et puis l'Assemblée nationale du Burundi vient de décider la suppression des institutions de lutte contre la corruption. L'ONG Olucom, qui lutte contre les malversations économiques, dit que cette décision aura sans nul doute des conséquences, des effets négatifs sur l'économie du Burundi. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Valérie Moucho. Madame, Monsieur, bienvenue.
Inzamba.
Un ancien militaire démobilisé, habitant de la colline Kidzi, en commune Rusaka, c'est dans la province Mwaro, au centre du pays, est en garde à vue depuis le début de ce mois d'avril au commissariat de police de Gatare. Il a été arrêté au lendemain de sa libération de la prison de Muramvya. Il venait d'être blanchi par le tribunal de grande instance de Mwaro. Il est gardé pour l'instant dans un isolement et il est privé de visite. Plus de précisions dans ce reportage signé Nadine Mohorakeye.
Cet habitant de Rusaka en garde à vue pendant bientôt un mois s'appelle Calixte Karisavie. S'étant démobilisé et ancien sous-officier des anciennes forces armées burundaises, ex-FAB, il a été arrêté au lendemain de l'attaque au domicile du responsable du parti CNDD-FDD dans la commune Rusaka, Athanase Mhawenayo. Ce dernier étant également le chef de colline Kidzi. Calixte Karisavie est accusé de faire partie de ceux qui ont perpétré cette attaque, des accusations que les habitants de Kidzi rejettent en bloc. Des sources de la radio Inzamba dans cette localité indiquent que la libération après acquittement par le tribunal de grande instance de Mwaro de cet ancien sous-officier de l'armée n'aurait pas plu à ce chef de colline, en même temps responsable du parti CNDD-FDD dans la commune Rusaka. Ce dernier avait orchestré un montage contre lui, l'accusant d'être parmi les groupes armés. Athanase Mhawenayo aurait saisi l'attaque à son domicile comme une opportunité de pouvoir le reconduire en prison, selon les mêmes sources. Les habitants de Rusaka font également savoir qu'ils ne comprennent pas comment ni pourquoi un prisonnier fraîchement libéré peut être impliqué dans ce genre de crime. Les informations qui nous parviennent de certains policiers du commissariat de Mwaro à Gatare font savoir que Calixte Karisavie est en isolement lors d'une garde à vue où il est privé de visite. Personne d'autre ne peut le voir, même ses co-détenus. Il serait torturé le soir par les éléments du Service national des renseignements. Ses proches et sa famille s'inquiètent pour sa sécurité. Il demande alors une assistance auprès des défenseurs des droits de l'homme et leur implore de suivre sérieusement ce dossier et de plaider pour le leur. La rédaction de la radio Inzamba Agathe Kakawe n'a pas encore eu la version d'Athanase Mhawenayo, responsable du parti CNDD-FDD dans la commune Rusaka, ni celle du commissaire provincial de la police à Mwaro, non plus celle du procureur provincial, pour pouvoir éclairer l'opinion sur cette garde à vue de ce démobilisé, Calixte Karisavie.
Merci Nadine Mohorakeye. Continuons ce journal par cette nouvelle brève. Une condamnation à perpétuité et le versement de 55 millions de francs burundais de dédommagement moral. Tel est le verdict rendu par la cour d'appel de Ngozi ce jeudi à l'encontre d'un certain Joseph Mitima, accusé de plusieurs homicides. Cet homme, âgé de 62 ans, habitant de la commune Rugabira, dans la province Kirundo, a été jugé pour assassinat prémédité sur 6 personnes. Il devra aussi restituer aux familles des victimes les biens subtilisés, constitués d'un véhicule, 2 motos et un tricycle, connu sous le nom de Bajaj, ainsi qu'une maison située sur la colline Ruhere, en commune Rugabira. Il n'y a aucun espoir que la justice et la commission Vérité et Conciliation puissent rassurer et rassembler les Burundais, parce que toutes les deux commissions sont sous les ordres du pouvoir. C'est là le point de vue de Frédéric Bamvuginyumvira, cet ancien vice-président de la République, le dit à l'occasion de ce 29 avril où les Burundais commémorent les nombreuses victimes des massacres interethniques de 1972. Pour Frédéric Bamvuginyumvira, la solution au problème qui mine le pays ne sera trouvé que si tous les Burundais se mettent ensemble avec une détermination commune d'en venir à bout. Écoutez.
Les événements de 62, 65, 69, 71, 72, 73, 88, 91, 93 et jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que les Burundais réalisent que ce ne sont pas des Bahutu qui tuent des Batutsi? Ce ne sont pas des Batutsi qui tuent des Bahutu, non. Ce sont des systèmes qui s'affrontent, un système peut-être à dominance Tutsi ou à dominance Hutu, où visiblement les gens cherchent à occuper le cadre de décision pour écraser l'autre de l'autre ethnie. C'est une pratique mortelle, parce que dans ces conditions, le Burundi n'aura jamais de paix. Maintenant, la question qui se pose, c'est que on nous a mis dans une caricature où ce sont des Batutsi qui sont là, des Bahutu qui sont là, et malheureusement, et les Batutsi et les Bahutu, une fois au pouvoir, se comportent de la même manière. Et nous perdons des nationaux, nous n'avons pas des gens qui viennent et qui se défendent de leur ethnie pour diriger le Burundi. Voilà le fond de la question. Jusque quand nous allons continuer à chercher des Burundais? Maintenant, les gens qui m'écoutent devront quand même comprendre, est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble et chercher à nous organiser et à organiser notre pays pour qu'il puisse répondre aux normes d'un pays bien organisé? Et quant à la justice et la commission vérité et réconciliation, ce sont des instruments du pouvoir. Or, le pouvoir en la matière a déjà fait son choix et que par conséquent, ces instruments ont aussi fait un choix. Donc, ils ne peuvent pas être utiles dans la résolution de la question de 72 ou de toute cette époque-là, parce que la question fondamentale, c'est une exploitation d'une situation qui n'en est pas une. Il a été très clair qu'en réalité, au Burundi, il n'y a pas d'ethnie. Et que par conséquent, ce sont des exploitations pour que des hommes au pouvoir puissent s'y maintenir en évoquant cette ethnie, cette autre-là, mais en réalité c'est pour que seuls ils puissent exploiter la chose publique à leur propre profit au détriment des autres.
La décision de la suppression de la Cour anticorruption et de la Brigade spéciale anticorruption est une véritable régression. C'est l'avis de Gabriel Roussili, le président de l'OLUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi. Selon lui, cela montre que le Burundi se méfie des instruments internationaux régissant la lutte contre la corruption qu'il a ratifié. Sa réaction vient après le vote à l'unanimité ce mercredi par l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant suppression de ces instances de lutte contre la corruption. Une nouvelle loi présentée hier à l'hémicycle de Kigobe par la ministre de la Justice. Une décision qui aura des conséquences économiques néfastes sur le Burundi d'après M. Roussili. Le point avec Josine Kadze.
Devant l'Assemblée nationale ce mercredi, la ministre de la Justice, Jeannine Niwidi, a expliqué que plusieurs lacunes se faisaient observer dans les différents textes qui régissaient les instances anticorruption. Dans cette nouvelle loi anticorruption, les cours et tribunaux auront le plein pouvoir pour lutter effectivement contre ce fléau.
Les cours et tribunaux auront cette fois-ci cette latitude. Auparavant, les banques évoquaient les hautes fonctions de quelqu'un pour refuser de nous faire sa situation bancaire. Avec cette nouvelle loi, ces instances judiciaires auront le regard sur le compte de toute personnalité poursuivie pour ses actes de corruption.
Pour Gabriel Roussili, le président de l'OLUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, il s'agit tout simplement d'une véritable régression. Cela montre que le Burundi rejette en bloc les conventions internationales contre la corruption qu'il a ratifiées.
Supprimer les institutions de lutte contre la corruption dans un contexte de pauvreté et de mauvaise gouvernance actuelle, c'est vraiment un recul gravissime que nous enregistrons actuellement. Imaginez le Burundi, en plus qu'il vient de violer la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention de l'Union africaine contre la corruption, qu'il a ratifié.
Les sanctions économiques vont peser toujours sur le Burundi vis-à-vis de ses partenaires suite à cette décision, ajoute Gabriel Roussili.
pour financer un pays, regarde comment son système d'intégrité et la manière dont le système national de l'intégrité est construit au Burundi actuellement, c'est vraiment déplorable.
Cette nouvelle loi anticorruption votée à l'unanimité par les députés ce mercredi vient pour décentraliser les institutions judiciaires anticorruption auprès de la population, comme l'a indiqué récemment le porte-parole du gouvernement Prosper Narugwamiye dans un communiqué. Les attributions de la Cour spéciale anticorruption sont désormais placées au sein des parquets généraux et les cours d'appel.
Inzamba.
Parlons santé à présent. Le lycée de Kiremba Nord, en province de Ngozi, est menacé par la COVID-19, ce qui inquiète les parents d'élèves. Depuis lundi de cette semaine, avec la campagne de dépistage dans ce lycée, 29 élèves ont été testés positifs. Le préfet des études et un domestique de ce lycée font partie aussi des cas positifs. Une personne très proche de cette école a indiqué à la radio Inzamba qu'il n'y a plus de matériel pour continuer le dépistage. Les élèves et les professeurs ont peur que ceux qui n'ont pas été testés, mais qui sont malades, puissent propager la maladie. Écoutez.
La plupart des élèves testés positifs se trouvent au cycle supérieur, dans la section scientifique et chez les finalistes de la section pédagogique. Il y en a d'autres qui se trouvent en deuxième année pédagogique ou un ou deux dans les autres classes. Ça nous inquiète énormément. Le message du ministre de la Santé et du président de la République qui obligeait à chaque élève interne à se faire dépister avant d'entrer à l'internat n'a pas été bien respecté, puisque personne n'est capable aujourd'hui à ce lycée d'avancer les chiffres de ceux qui ont été dépistés ou pas. Actuellement, la campagne de dépistage pour voir réellement qui sont malades et qui ne le sont pas a repris, mais le manque de matériel pose problème. Ils sont obligés de se diriger à l'hôpital provincial, des gymnastiques difficiles. C'est depuis lundi que ce travail a repris pour que tous les élèves et enseignants soient dépistés. Un travail qui est loin d'être terminé.
De Kiremba au nord du Burundi, allons à Rumonge au sud. Un tronçon de la route nationale numéro 3 reliant l'ancienne capitale Bujumbura à la ville de Rumonge est menacé par les eaux du lac Tanganyika qui ne cessent de monter. Cette route risque d'être littéralement coupée en deux. Les usagers de cette route nationale demandent à l'État de sauver cette infrastructure publique avant qu'il ne soit trop tard. Le point avec Diane Murunziza.
Cette partie de la route nationale numéro 3, menacée par les eaux du lac Tanganyika, se trouve dans la localité de la colline Mubone, zone Gitaza, commune Muruta, en province Rumonge. Alors que ces eaux détruisent des maisons d'habitation dans d'autres localités, elles ont infiltré cette infrastructure et menacent de la détruire. Construite sur le littoral du lac Tanganyika, cette route est détruite progressivement. Selon des sources à Rumonge, cette route peut être coupée en deux à des moments à l'autre. L'agence routière a déjà mis en place des blocs ciment pour avertir les chauffeurs et autres usagers sur des cassures qui se remarquent sur cette route. Mais ces blocs ciment ne suffisent pas du tout. L'urgence serait la réhabilitation de cette infrastructure. La route nationale numéro 3 s'est détériorée jusqu'à ce que le trajet Rumonge à Bujumbura, une distance de moins de 70 km, se fait en plus de 3 heures, selon les usagers de cette route. Avant que ne soit endommagé, pratiquement ce trajet ne dépassait pas 45 minutes. Certains techniciens en construction commencent à s'inquiéter sur la problématique de la réhabilitation de cette route. Selon eux, la montée des eaux du lac Tanganyika peut perturber le plan de la réhabilitation de cette route, selon les études faites, et surtout retarder les travaux de la réhabilitation qui étaient prévus. Signalons que la RN3 est la seule route par laquelle passent les marchandises en provenance de la Tanzanie, des marchandises aussi à décharger au port de Rumonge avant de prendre la RN3 pour Bujumbura. Les usagers de cette route constatent qu'une fois cette route devenue impraticable, ça serait une grande perte pour le Burundi et un fardeau pour les usagers. Ils demandent au gouvernement de réhabiliter cette route dans l'urgence.
Restons dans le sud du pays, un climat de méfiance règne entre les taximotards et la police dans la ville de Makamba. Les taximotards accusent la police de confisquer leurs motos sur de fausses accusations, comme quoi ils n'ont pas des documents nécessaires. Cela handicape les activités quotidiennes pour la plupart des habitants de Makamba, dont la moto est le principal moyen de transport. La police dit que certains documents de ces motos ont été fraudés. Le point avec Josephine Jones Ngunzimana.
Ce mauvais voisinage entre la police et les transporteurs de taximotos au chef-lieu de la province Makamba date de plus d'un mois. Selon les taximotos, les agents de la police organisent des rafles pour saisir toutes les motos en circulation dans la ville de Makamba. La plupart de ces policiers se lancent dans cette opération étant dans une tenue civile. Ces taximotards disent qu'ils sont taxés des amendes allant de 60 à 100 000 francs une fois pour récupérer leur moto à la station de la police. Certains policiers profitent de cette situation pour demander des pots de vin. Ils préfèrent payer 10 000 francs bout au lieu de payer cette lourde amende. Cette situation paralyse les activités de toute ville de Makamba. Certains disent qu'ils n'ont plus quoi mettre sous la dent car ils n'ont plus accès au parking. De l'autre côté, ceux qui se déplacent à l'aide des taximotos disent aussi qu'il leur est devenu difficile de se présenter à leur travail suite à cette situation. Tous demandent aux autorités administratives et policières hiérarchiques de se saisir de la question. Quant à la police, ces motos sont saisies dans le cadre du travail de routine. La même source policière ajoute que la plupart de ces motos n'ont pas de documents pour avoir été achetées frauduleusement.
Dernière nouvelle de ce jeudi, les habitants du chef-lieu de la province de Muyinga, à l'est du Burundi, s'inquiètent de la hausse des prix des denrées alimentaires qui s'observe depuis un mois. Les produits concernés sont surtout surconsommés par des personnes à faible revenu, comme la pomme de terre et le sucre. Ces habitants craignent l'absence totale de ces denrées alimentaires. Les détails avec Jacob Sibomana.
Les habitants du chef-lieu de la province Muyinga assistent impuissamment à la hausse des prix des denrées alimentaires. Depuis un mois, un kilo de pommes de terre de petite taille coûte 1000 francs burundais, alors qu'avant on l'obtenait à 500 francs burundais. Un kilo de pommes de terre de taille moyenne qui coûtait 700 francs se vend actuellement à 1000 francs burundais. La pomme de terre de grande taille qui coûtait 800 francs le kilo s'obtient aujourd'hui à 1300 francs burundais. Concernant l'huile de cuisine, une bouteille d'un litre et demi qui s'achetait à 6500 francs il y a un mois coûte aujourd'hui 8000 francs burundais. Un bidon de 5 litres passe de 18 000 à 25 000 francs burundais. Un kilo de sucre vendu officiellement à 2500 coûte actuellement entre 3000 et 3500 francs burundais. Certains consommateurs n'hésitent pas à dire que ces denrées risquent de manquer complètement dans l'alimentation, surtout chez les familles à faible revenu. Ils demandent aux autorités de suivre de près et punir les commerçants spéculateurs. Nous n'avons pas pu joindre le conseil économique du gouverneur de la province Muyinga pour qu'il s'exprime sur le sujet.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui vous nous avez prêté une oreille attentive. Au revoir et à la prochaine.